Merci d'être venu cet après-midi pour cette conférence hommage à Michel Jury, qui nous a quittés en janvier dernier, le 10, très précisément, à l'âge de 80 ans. Michel Jury, qui a été un des grands piliers de la science-fiction française. On va évoquer son parcours, son œuvre, on va évoquer ses romans, on va évoquer l'après, mais on va d'abord évoquer l'homme, la personne qu'il était, et avec nous, autour de la table, quatre personnes. Tout d'abord, Sylvie Lainé, à ma gauche, à votre droite, qui vient notamment, alors pour parler de l'actualité de Sylvie, qui vient de sortir l'opéra de Chaya et de gagner le Grand Prix de l'Imaginaire. À ses côtés, Jean-Pierre Andrevon, avec dans les derniers, donc Demain le Monde, et puis 100 ans de cinéma fantastique et de science-fiction, mais aussi Le Travail du Furet, mais aussi Zombie à Nourrisson de Cendre, mais aussi Les Retombées. Aux passagers clandestins, il y a un concours en ce moment. Juste à mes côtés, Natacha Vazder. Alors, Natacha universitaire, Natacha qui a participé à de nombreux ouvrages comme Les Dieux cachés de la science-fiction française et francophone, mais qui est aussi présidente de l'association des amis de Michel Jury et qui va nous en parler. Et puis, notre dernier, the last one de la table, il nous survivra tous, Hugo Bellagamba. Directeur artistique des Utopiales. Au niveau des bouquins, nous citerons Tancrède, une uchronie. On citera l'excellente Origine des Victoires. Et puis, on parlera de la convention de Nyons de science-fiction qui a eu lieu en 2008, avec comme invité Michel Jury. Donc, il a sans doute pas mal de choses à nous raconter. Peut-être pour commencer, Michel Jury, qu'on fasse un petit tour de table sur quand est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois, les premiers souvenirs que vous avez de Michel. On commence avec toi, Jean-Pierre.
Moi, je veux bien. En arrivant là, j'ai prévenu mes collaborateurs et amis, néanmoins, que je ne savais pas quoi dire sur Michel Jury, parce que je ne savais pas du tout que j'étais convié à participer à cette table ronde. Donc, je suis un petit peu pris à dépourvu, au dépourvu. Il faut nous replacer dans l'époque, hein, c'est-à-dire l'époque, c'était le début des années 70, c'est-à-dire là, je vais lire une La Palissade, c'était après 68, qui a réveillé, si on peut dire, la science-fiction, pas que la science-fiction, mais le théâtre aussi, mais le cinéma, mais enfin des tas de choses. Et paradoxalement, la science-fiction s'est réveillée un peu tardivement après le bouleversement culturel, socio-culturel de mai 68, ce qui est un peu bizarre si on se replace dans cette perspective. C'est surtout la musique qui a pris le dessus des 68 et même avant, mais enfin, la musique particulièrement, et puis les spectacles de théâtre qui n'étaient pas classiques. Et la science-fiction a un peu tardé à prendre le relais, sauf, je veux pas me mettre en avant, mais c'est vrai que, comme chacun sait, ou peut-être sait ou sait pas, que j'ai publié ma première nouvelle dans fiction en mai 68, puis mon premier roman dans Les Hommes Machines contre Gandard, fin 69, et puis après j'ai continué à mes recueils de nouvelles chez De Noël, 72, etc. Donc, par le hasard des choses, j'ai été un des premiers auteurs contestataires politiques, enfin bref, qui ont suivi les événements de 68. Et Jury en a fait partie aussi, mais un peu après, puisque son premier roman, Le Temps Incertain, date de 73, si je me souviens bien. Et c'est là, effectivement, que je l'ai rencontré de manière assez bizarre, d'ailleurs, parce que j'ai reçu un jour une lettre, il n'y avait pas de mail à l'époque, une lettre de Michel Jury qui contenait la page de titre intérieur déchiré du Temps des Grandes Chasses que je venais de publier chez De Noël. Et il y avait un petit mot, on disait, tu vois, tu as publié Le Temps des Grandes Chasses, moi je publie dans quelques mois ou quelques semaines Le Temps Incertain et j'aimerais que tu me dédicaces. Alors ça, c'est tout Michel Jury, quoi. J'ai dédicacé la page déchirée, puis je lui ai renvoyé, et puis je l'ai rencontré peut-être quelques mois après à une convention ou à un festival quelconque, fin, je ne sais pas si c'est fin 73, début 74. Et puis voilà, puis après chacun a suivi son chemin, Michel Jury avec l'univers de la Cronolis dans les trois romans, et puis d'autres qui sont venus après. Et on ne s'est jamais perdu de vue, mais on n'était pas proches, hein, je ne peux pas dire ça, pas du tout, ni par l'écriture, ni par les thèmes, ni par la proximité géographique, hein, puisqu'il habitait à Anduze, dans la Bambouseraie d'Anduze, où je suis allé effectivement le voir, je crois que c'était en 75, si je me souviens bien. Et puis voilà, quoi, ça fait toute une vie, tout un temps qui passe et qui passe et qui passe. Et puis on commence à trépasser, malheureusement. Ça a été son cas en janvier. Voilà ce que je peux dire comme introduction. Je sais pas, je m'arrêterai peut-être là. Oh, voilà. Fait des bêtises, ça commence bien. Voilà, alors.
Est-ce que quelqu'un aurait des mouchoirs en papier, s'il vous plaît? Hugo Belagamba va nous chanter une chanson pendant cette
oui.
interruption.
C'est gentil. Pour les prochains. C'est un signe du destin.
On va passer à Sylvie. Alors, pareil, la rencontre avec Michel Jury.
Alors, moi, c'était un peu plus tard. C'était en 84. À l'époque, je n'écrivais pas encore, mais j'avais rencontré un bouquiniste à Lyon, parce que je faisais la tournée des bouquinistes pour retrouver tout un tas de bouquins que j'avais lus quand j'étais jeune et dont je ne connaissais pas le titre. Et il m'a proposé de créer un fanzine. Et la première chose qu'on a prévu de faire quand on a démarré ce fanzine, c'était d'aller interviewer Michel Jury, parce que Marcus Leicht, c'était lui donc le co-directeur du fanzine, m'a dit, je l'ai rencontré, il m'a dit qu'on pouvait venir le voir quand on voulait, et donc voilà, on a pris la route, on a traversé le Massif Central et on a débarqué chez Michel Jury. Moi, j'étais très impressionnée. Le Temps incertain était déjà sorti, c'était un livre qui m'avait complètement éblouie. C'était un Ailleurs et Demain, il y avait déjà bien peu d'ailleurs et de français chez Ailleurs et Demain, donc c'était quand même un grand événement, et j'étais très émue à l'idée d'aller chez Michel Jury, et c'était vrai, c'est-à-dire qu'il était prêt à nous accueillir des gens qu'il connaissait à peine, qui étaient des petits fanzineux obscurs dont il n'avait jamais entendu parler, au moins en ce qui me concernait, et il nous a ouvert sa maison avec sa femme, et il nous a dit « vous restez tant que vous voulez ». Donc on en a profité, on a bien dû y passer 4 ou 5 jours. Puis c'est vrai que refaire la traversée du Massif Central dans l'autre sens, on n'était pas très pressé de le faire non plus. Donc non seulement il nous a très bien accueillis, non seulement il nous a accordé ce qui était bien plus qu'une interview, parce qu'il nous a tout raconté. Parmi les choses dont j'ai un grand souvenir, il y a le fait qu'il nous a sorti un petit carnet rempli de tous les titres qu'il aimerait utiliser un jour pour un de ses livres ou qu'il envisageait d'utiliser. Donc, il nous a fourni un matériau extraordinaire, mais il a fait bien plus que ça en ce qui me concerne. Il m'a dit « t'as envie d'écrire, montre-moi ce que tu fais ». J'avais deux, trois petits bouts de texte de débutante et il m'a tout de suite dit vas-y, continue, écris vraiment. D'ailleurs, il m'a lancé sur un projet d'utopie que Gérard Klein envisageait de publier à l'époque. C'était Utopie 85, qui n'a jamais été publié, mais pour lequel Michel Jury et Philippe Curval travaillaient ensemble et pour lequel ils ont réuni des textes. Donc j'ai tout de suite été invité à y participer. Et c'est vraiment, je l'ai découvert après, quelque chose que Michel faisait très très régulièrement avec beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il adorait aimer les auteurs débutants, les encourager, les aider. Il accordait une quantité d'interviews à toutes sortes de fanzines. Il était prêt à envoyer toutes sortes de nouvelles inédites pour des fanzines. Il avait une énergie et une générosité complètement incroyables. Donc moi, il m'a tout simplement suggéré d'envoyer mon premier texte à Joël Vintrebert pour Univers 85. Donc ma première publication a été une publication professionnelle chez J'ai lu, grâce à Michel Jury. C'est pas rien quand même. J'ai entrevu l'idée d'être publiée un jour en Ailleurs et Demain, ce que tout le monde n'a pas pu entrevoir, même si ça ne s'est pas fait. Et voilà, on aura l'occasion de dire d'autres choses, mais la générosité de Michel et son humour aussi, parce qu'il a fait tout ça avec beaucoup, beaucoup d'humour tout le temps. C'est, je pense, une des premières choses dont on peut parler.
Hugo ?
Alors, donc moi, la rencontre avec Michel, c'était plus tard, en fait. C'était en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à la possibilité d'organiser une convention nationale de science-fiction, donc à Nyons, dans la Drôme, On commençait à travailler sur le projet en 2007 pour la convention de, enfin 2006 pour la convention de 2008. Et pour moi, il était très clair dès le départ, et on ne s'était jamais rencontré hein, avec Michel, évidemment, je n'étais rien, que Michel serait l'invité d'honneur, enfin l'invité vedette, hein, des grands invités en tout cas de la convention. Il y avait aussi d'ailleurs Jean-Pierre hein, qui était là, Jean-Pierre Andrevon, et puis Sylvie aussi d'ailleurs, voilà. Et donc le premier contact, ça a été de trouver son numéro de téléphone et de l'appeler. Et donc, je prends mon courage à deux mains. J'appelle Michel Jury, qui pour moi était un dieu de la science-fiction, un dieu vivant de la science-fiction que j'avais lu et profondément admiré. Et donc, je prends mon téléphone et j'appelle et je tombe sur Michel. Et c'était, voilà, c'était extraordinaire parce qu'il... Non, je me présente, Hugo Belagamba, organisateur de la Convention nationale de science-fiction de Nyons. Déjà, il fallait s'habituer à dire ça, on pourrait y croire. Qu'on allait pouvoir la faire, cette convention. Et je dis, voilà, je voudrais que vous soyez, monsieur Jury, donc l'invité d'honneur, le grand invité de cette convention. Et là, grand silence au bout du téléphone. Donc je me dis, je vais me faire jeter. Qui vous êtes? Je ne vous connais pas. Enfin, je m'attendais à tout. Et il me dit, non, écoutez, ça n'est pas possible. Ça ne peut pas être moi. Alors je dis, bah, écoutez, je ne comprends pas pourquoi ça ne peut pas être vous. Et il me dit non, parce que ça ne peut pas être moi, je ne suis pas assez important. Je ne suis pas assez important, ça fait très longtemps que je ne fais plus de science-fiction, puisqu'il avait toute une carrière aussi d'écrivain de romans de terroir. Et non, je ne suis pas assez un auteur assez important, je ne suis pas un auteur assez grand pour être l'invité d'honneur d'une convention de science-fiction, ce n'est pas possible. Et il a fallu que je lui explique pourquoi c'était possible. Et vraiment, il était réticent, mais par une humilité vraiment naturelle, spontanée. J'ai dû le convaincre. Donc, je pensais que j'aurais dû le convaincre de venir parce que c'était moi et que j'étais un inconnu, que je n'étais rien pour lui et qu'il ne voudrait pas se déplacer pour une convention organisée par un inconnu. Mais en fait, la seule réticence qu'il avait, c'était l'inquiétude qu'il avait de paraître peut-être trop prétentieux en acceptant d'être l'invité d'honneur d'une convention de science-fiction. Donc ça, c'était le premier contact avec Michel. Il y en a eu beaucoup d'autres après. Ensuite, il m'a avoué, alors ça, c'est rigolo, parce qu'il ne me l'a pas dit tout de suite, que sa fille, Dani Jury, habitait à Nyons. Donc, évidemment, c'était un signe du destin, un signe des dieux, je ne sais pas. Donc, c'était très facile pour lui d'être là, de venir voir sa fille. Mais il ne me l'a dit qu'après. Avec une extrême délicatesse, à aucun moment il m'a dit « Non mais ne vous inquiétez pas, de toute façon ça tombe bien, il y a ma fille ». Il a vraiment, ça a été vraiment un premier contact d'une grande délicatesse, d'une grande humilité. Enfin, ça c'était vraiment mon premier contact avec l'homme qui était Michel Jury. Et puis ensuite, un homme remarquable, à tout point de vue, une immense culture, une disponibilité de chaque instant, une gentillesse extraordinaire. C'est-à-dire que ce que je lui proposais pour l'organisation de la convention, pour les heures à laquelle je souhaitais qu'il intervienne. Il était toujours d'accord avec tout. Il était vraiment extrêmement gentil avec tout le monde, avec toutes les personnes de l'organisation. Quand on organise des festivals, des manifestations culturelles et autres, même en science-fiction, où la quantité de gens gentils est globalement supérieure à n'importe quel autre, n'importe quel autre domaine ou n'importe quelle autre communauté, avec Michel, on avait vraiment la crème de la crème de l'humanité. En fait, voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement humain. Et voilà, ça a été vraiment ma première rencontre. Et ensuite, je rencontrerai ça après, mais on a eu d'autres échanges, plus sur la science-fiction, plus sur ce que c'était qu'écrire. Parce que moi, j'avais à peine osé dire que j'écrivais à l'époque aussi, voilà. Et voilà, c'était une rencontre vraiment, vraiment humainement merveilleuse.
Natacha. Voilà, donc moi j'interviens en dernier parce que j'ai rencontré Michel Jury finalement très tardivement en 2010 aux rencontres de l'imaginaire de Sèvres et je remercierai jamais, je pense encore assez Jean-Luc Rivera d'avoir finalement favorisé cette rencontre, mais sa manifestation est, je pense, est faite pour ça. Ce que je voulais dire avant toute chose, c'est que Nicole Jury m'a dit très très récemment, il y a à peu près 10 jours, qu'il y a un certain nombre de femmes qui ont compté dans la vie de Michel Jury, et Sylvie, tu en faisais partie. Voilà. Donc, elle m'a dit ça, si tu peux, voilà, essaie de le dire. Donc là, je le dis publiquement. Et puis, la seconde chose que je voulais dire, c'est que quand j'ai rencontré Michel Jury, d'abord, moi, je ne pensais même pas pouvoir lui parler. Pour moi, c'était comme, voilà, je pense comme pour Hugo, peut-être comme pour nous tous. Michel Jury venait de faire paraître Mais le Monde en 2010. C'était son grand retour à la science-fiction. Il a mis 5 ans, entre parenthèses, pour construire et écrire ce roman. Et en 2010, quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un qui était quand même très, avec une santé extrêmement fragile. Vous voyez, il est décédé donc en janvier, mais entre 2010 et 2015, il a quand même eu de grosses épreuves donc de santé. Il était devenu cardiaque, etc. Donc pour lui, finalement, ces 5 ans, ça a été une période de survie. Et moi, je me suis dit, bah, en tant que chercheur, c'est maintenant ou jamais, si je veux avoir son témoignage sur sa vie, évidemment, d'écrivain, comment il a pu démarrer, l'évocation de cette science-fiction, de ce milieu de la science-fiction des années 70-80, qui était un petit peu l'âge d'or, finalement, de la science-fiction française. Enfin, je ne sais pas si Jean-Pierre Andrevon pourra peut-être me contredire. voilà, sur ce sujet. Voilà, je me suis dit, c'est le moment. Et donc, avec l'Université Bordeaux-Montaigne, nous avons créé un projet. Donc, ça a été un projet d'entretien qui s'est concrétisé donc en 2013, qui est visible sur Internet. Auparavant, en 2011, j'avais donc fait avec lui des entretiens chez lui. Et là, je vais redire ce que donc mes collègues ont pu dire à cette table ronde, c'est-à-dire l'extrême gentillesse de Michel, l'accueil de sa femme aussi, de sa famille, parce que c'est une famille très, très aimante, hein, qui a entouré donc Michel Jury. Quelqu'un d'extrêmement modeste, mais je pense que il était à la fois quand même conscient de ce qu'il avait pu écrire, mais qu'en même temps, il me disait tout le temps, mais pff, ça m'est arrivé, mais c'est pas moi, c'est une autre. Il avait une espèce de dédoublement de personnalité, comme ça, en disant, mais oh, c'est pas possible, même arrivé tout au bout, oh non, j'ai pas pu écrire ça. Voilà, il était encore finalement très, très interrogatif sur sa propre vie, sur sa propre œuvre. Voilà, et donc nous avons entamé cette espèce de travail de témoignages, et puis là, on est allé évidemment au-delà de l'universitaire, et nous avons, alors je suis un peu émue quand même, parce que je viens de terminer, nous allons publier donc aux presses universitaires de Bordeaux les carnets chronolithiques, ce sont les derniers textes de Michel Jury, qui nous a écrit entre 2009, Richard Combalot m'a aidé à publier ses textes, et 2014, vous voyez, décembre 2014, et Michel nous a quittés en janvier 2015. Donc c'était vraiment ces tout derniers écrits, et je pense qu'il avait envie qu'on les publie. Donc ce sont des souvenirs, ce sont des anecdotes. Enfin, vous verrez, ça, ce sont des textes tout à fait intéressants. Voilà. Donc c'était un grand monsieur, très humain, très modeste, et en même temps, je pense que c'est un très grand écrivain, et on va s'en apercevoir maintenant. Et tout à l'heure, si on a un petit peu de temps, en évoquant l'œuvre, je vous parlerai aussi de la vision, finalement, de la double carrière de Michel Jury, science-fiction, et puis les romans de terroir aussi, mais qui sont bien évidemment liés.
Alors, justement, je voudrais qu'on parle peut-être un petit peu de l'œuvre pour qu'on comprenne bien l'importance. Pourquoi est-ce qu'il a été aussi important, finalement, dans l'histoire de la science-fiction française? Peut-être le retour avec toi, Sylvie, quand tu dis que le temps incertain, et je ne choisis pas au hasard, tu as été le voir juste après. Pourquoi est-ce que c'était aussi important, à ce moment-là, un livre comme ça?
De mon point de vue, quand je resitue la période, il y a deux romans qui ont des caractéristiques un peu similaires, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais il y a eu à peu près dans le même temps, il me semble, Tout ça Zanzibar de John Brunner et Le temps incertain de Michel Jury. Et je pense que c'est l'apparition des deux...
Tout ça Zanzibar, c'est 66...
Ah oui. Peut-être que c'est leur arrivée en France ou le moment où moi je les ai découverts. Il y avait une certaine simultanéité. Et en tout cas, ces deux romans faisaient un petit peu le même type de révolution parce que c'était des récits extrêmement complexes dans leur construction, extrêmement ambitieux dans leur projet, extrêmement vivants dans la proximité qu'ils avaient avec leurs personnages, qui étaient des personnages très humains et très ancrés dans leur environnement. Donc, dans mon souvenir, à moi, c'est deux romans qui sont associés par le bouleversement qu'ils ont créé. Et c'était des projets d'une ampleur considérable. Et on a eu une période de grande proximité avec Michel et de grande complicité. Et il m'a semblé comprendre des petites choses à son sujet. Bon, c'est toujours des interprétations, mais je pense que Michel n'a jamais été quelqu'un de simple. Michel était quelqu'un d'extrêmement complexe. Cette complexité-là, cette richesse, le temps incertain emporte la trace évidente, alors que à peu près dans la même période, mais je suis très nulle, j'ai un désordre chronolithique, donc vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais c'est un petit peu plus tard, Jean-Michel a commencé à écrire tout un tas de romans au fleuve noir, qui étaient souvent très intéressants, mais dont justement la construction était extrêmement linéaire. C'était des romans d'aventure faciles à lire, c'est ce que son éditeur lui demandait. Et il me disait qu'il souffrait d'écrire des histoires simples. Il était plus heureux d'écrire des histoires extrêmement complexes. Ça, il le disait à l'époque. Et c'était un des multiples paradoxes de Michel, le fait que il avait vraiment choisi une vie très simple, dans une famille très aimante, comme disait Natacha, dans un cadre paisible qu'il aimait beaucoup. Moi, je l'ai rencontré, il vivait à Essijac, il était dans le Périgord, avec ses parents qui étaient dans la petite maison juste en face. Et il avait choisi un cadre de vie extrêmement simple, il voyageait peu. Il ne voyait ses amis de la science-fiction essentiellement que quand ses amis allaient chez lui, parce que beaucoup de gens sont passés chez lui et ont toujours été très bien accueillis. Et quelqu'un d'extrêmement intelligent, parce que l'intelligence de Michel était éblouissante et évidente, et quelqu'un de complexe et plein d'humour, parce que ce qui nous a réunis, c'est l'humour. On a énormément correspondu et on a beaucoup ri ensemble avec Michel. Je crois qu'il a vraiment utilisé l'écriture pour faire passer toute cette richesse et cette complexité intérieure qu'il n'exerçait pas dans sa vie. Et pour moi, c'est ma manière de le percevoir, l'extrême modestie de Michel était un paradoxe plein d'humour. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il se fichait de moi quand il jouait au modeste, juste pour voir, parce que ça me mettait dans des transes invraisemblables, je ne savais pas comment réagir, c'était vraiment très étonnant comme situation. Et ça l'amusait beaucoup. Je crois qu'il nous faisait des grosses blagues à chaque fois qu'il jouait au modeste. Il l'était en même temps, mais rien n'était jamais simple avec Michel.
Souci avec ce micro, c'est bon. Jean-Pierre, quand le temps incertain et cette trilogie sort, c'est toujours un peu difficile avec le recul, mais est-ce que tu te souviens un petit peu des réactions à ce moment-là, de ta réaction par rapport à ça?
C'est un peu difficile à dire parce qu'effectivement c'est vieux. On l'a comparé à Dick, hein, c'est vrai, alors que lui refusait cette comparaison. Je crois qu'il n'a probablement pas lu Dick quand il a écrit le temps incertain. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui restait unique quoi, dans l'univers de la science-fiction où il y a des catégories de la science-fiction française. Hein, je veux parler, bien sûr. Il y a des catégories assez caractérisées, assez bloquées, si on peut. Il y a la science-fiction politique dont je fais partie avec quelques autres. Hein. Et puis après, il y a eu les nouveaux formalistes avec Joanne et des gens comme ça, Berthelot. Et lui a toujours gardé le peu de temps qu'il a écrit de la vraie bonne science-fiction jurienne, mettons à part ces fleuves noirs dont tu parlais tout à l'heure, et il faisait ça pour gagner sa croûte, comme tout un chacun, comme chacun de nous qui ont pu y arriver. Et c'est vrai que c'était cette trilogie auquel j'ajoute, moi, parce que c'est un livre que peut-être que je préfère même, autant à certains, c'est « Les yeux géants ». Qui est un livre très, très bizarre, très caractéristique.
Je crois que c'était son préféré aussi.
Je pense qu'il a beaucoup lu Bertrand Meeust, qui avait toute une théorie sur les apparitions de soucoupes volantes, qui n'étaient pas des objets, mais des choses qu'on inventait, qu'on transposait, comme on voyait des sorcières à cheval sur un balai au Moyen-Âge. Les micros sont très capricieux, là, on dirait, oui. Et puis après, c'était plutôt des sphères lumineuses à la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait les ballons. Puis quand la technologie est arrivée, on a vu, ou on a cru voir, des soucoupes volantes. Et je pense que Michel s'est beaucoup rentré en coïncidence, si on peut dire, avec Bertrand Meheust et ses théories. Et moi, c'est vrai que c'est un livre, je serais bien incapable de le décrire en détail aujourd'hui, ni même de raconter un résumé de l'histoire, mais c'est un... Je pense que c'est son dernier grand livre, en fait, probablement. Et puis après, c'est vrai qu'il s'est lancé dans l'écriture du Fleuve Noir pour gagner sa croûte. Puis après, par un espèce de miracle qui arrive une fois de temps en temps, une fois tous les 10 ans à une personne, il a percé dans cette littérature, je vais dire régionalisme, mais c'est pas du tout restrictif dans ma bouche. Et là, il a fait des... Voilà, il a gagné beaucoup d'argent, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Et il l'a dit lui-même, d'ailleurs sans se cacher, j'écris plus de la science-fiction parce que je gagne pas un rond avec la science-fiction, alors qu'avec mes livres régionalistes qui passent au Club français du livre, etc., j'en gagne beaucoup. Alors moi, je dis tant mieux pour lui, que voilà, sans jalousie ni envie, mais voilà, c'est un peu sa carrière. Ça. Alors c'est vrai qu'il est revenu tardivement à la science-fiction. Et puis il n'a pas pu aller plus loin parce que malheureusement, voilà, le temps, la serpe du temps lui est passée sur la tête, quoi.
Je voulais juste dire qu'à l'occasion de la convention de 2008 organisée par Hugo, où on a eu encore de grandes, grandes discussions avec Michel, c'était le moment où il commençait à parler de revenir à la science-fiction. Et ce qu'il disait à l'époque, c'est que ce n'était pas tant le genre qui lui manquait que les lecteurs que nous formions, et le milieu, il avait un milieu de lecteurs et de gens qui l'appréciaient beaucoup dans cette autre forme de littérature, mais visiblement, il n'avait pas les mêmes échanges. Et c'est le milieu de la SF qui lui manquait le plus.
Et juste pour compléter, c'est vrai, c'est ce qu'il m'a écrit aussi, hein, après la convention, parce que Michel m'avait envoyé une longue lettre après la convention de Nyons pour me remercier. Ça aussi, ça n'arrive pas toujours, souvent. Et où il m'expliquait qu'il avait, exactement comme tu viens de le dire, repris contact. Il m'a dit, grâce à la convention de Nyons, j'ai repris contact avec le milieu, avec les gens.
J'ai retrouvé ma
famille. Voilà. Et c'est exactement ça. J'ai retrouvé ma famille. Et comme donc j'ai retrouvé ma famille, je vais donc écrire à nouveau de la science-fiction. Je pense qu'il avait en tête avant, de toute façon. Mais évidemment, ça a contribué à... Tout à fait.
Tu voulais nous lire un petit extrait?
Oui, alors sur le rapport qu'il avait à l'écriture, alors c'est un extrait grâce à Natacha, hein, qui me l'avait fait passer justement lorsqu'on parlait du travail d'écrivain de Michel. Donc c'est un extrait qu'il a écrit, en fait, c'est une préface qu'il a faite pour ses romans de terroir. Mais ce qu'il dit sur l'écriture pour ses romans de terroir me paraît aller, vous allez voir, très bien aussi avec sa science-fiction. Alors tous les métiers ont leur joie et leur peine. Celui d'écrivain ne fait pas exception. Il faut parfois produire des pages, même si l'on n'a pas trop envie, s'imposer une discipline de travail, s'organiser dans la solitude et souvent le doute. Je n'ai rien connu de tel pour La Grâce et le Venin, que j'ai toujours écrit dans le bonheur et la fièvre de l'inspiration. C'est pourquoi ce livre fera date dans ma vie d'auteur. On demande souvent à un écrivain pourquoi et comment écrivez-vous. C'est une autre question que j'aime poser et me poser. D'où écrivez-vous ? Ce n'est pas un lieu matériel que je pense. Une pièce, un bureau, une chambre, une salle de bistrot, une mansarde, en ville, une terrasse avec vue sur la campagne ou sur la mer. Il s'agit d'une sorte d'observatoire intérieur, d'où chacun de nous regarde le monde et la vie. Pour moi, ce lieu est mon enfance. Je me reporte toujours à elle par un penchant instinctif, comme si elle était pour moi la mesure de toute chose. Non seulement j'écris sur mon enfance, comme ce fut le cas avec Le vrai goût de la vie et Une odeur d'herbe folle, mais j'écris de mon enfance. L'univers d'un enfant, c'est sa famille, et son village ou son quartier, et ses rêves. Sans doute est-ce pour cela que mes livres sont presque toujours des romans familiaux, qui ont pour cadre une maison, une commune, un village, un cercle étroit à l'horizon fermé. Quand un sujet de récit me vient, c'est quelque chose qui se noue entre mon enfance, plus que jamais présente en moi, et l'expérience de l'âge mûr. C'est une impression d'enfance revisitée par l'homme d'âge, c'est l'expérience de l'âge exaltée par un rêve d'enfance. Et cette préface-là, moi je trouve qu'elle parle très très bien de sa science-fiction aussi, et de sa, Oui, le titre c'était La musique du temps. La musique du temps, pardon. Ouais. Et alors tu vas en parler bien sûr, mais moi l'un de mes romans qui est vraiment un roman que je vénère vraiment, c'est L'Orbe et la Roue. C'est un roman de 1982 que j'ai relu plusieurs fois. C'est pas fréquemment qu'on relit plusieurs fois, parfois on relit deux, trois fois un texte, mais et je trouve qu'il y avait dans ce roman où on est dans un futur très lointain, où les gens sont peuvent se réincarner, peuvent revenir sans cesse, où la mort n'est rien. Au fond, la seule vraie question, c'est l'identité peut-être, mais la mort n'est rien. La mort, ce n'est pas du tout un problème, puisque les gens reviennent de 30 000 ans en 30 000 ans, et le monde évolue, la technologie permet de créer tous les mondes que l'on veut. Il y a une richesse extraordinaire, on crée des mondes avec une espèce de matière qui permet de tout faire, qu'il appelle la lacre. Et on crée des mondes d'une beauté et d'une diversité extraordinaire. Et il y avait cette générosité un peu enfantine dans ce roman de Michel Jury, où finalement, la vraie question n'est pas de savoir si on va mourir ou pas, mais de savoir qu'est-ce qu'on va faire de la vie. Et ça, ça a toujours été un des messages que j'ai retenu de son œuvre. Et même en parler un peu maintenant, c'est un peu difficile pour moi, parce que ça me dit quelque chose de l'écriture. Et je crois profondément, tout comme Michel, que l'écriture, c'est aussi revisiter l'enfance, redonner comme ça cet incessant retour vers la foi qu'on peut avoir quand on est un petit garçon, une petite fille. Pas la foi en un dieu quelconque, non, la foi en la vie, tout simplement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que lui faisait admirablement bien.
Oui. Alors, pour revenir sur l'œuvre littéraire et un petit peu sur Le Temps incertain, donc Le Temps incertain, c'est effectivement un roman qui a fait date en 1973. Alors, juste pour rebondir, John Brunner est venu donc rendre visite à Michel dans les années 74-75 à Issy-Jacques. C'est une rencontre qui a fait date parce que John Brunner était un personnage avec sa femme. Enfin, je pense que Jean-Pierre a dû le rencontrer donc dans des conventions ou dans les festivals. C'est un personnage haut en couleur avec voilà des costumes particuliers. Grand, etc. Et John Brunner était admiratif de l'œuvre de Michel Jury. Michel Jury a fait don à l'association d'un petit document, d'une petite lettre où John Brunner, en quelques mots, dans un espèce de franglais approximatif, dit toute l'admiration justement qu'il avait pour Michel. Voilà. Oui, mais c'était de l'humour. Ensuite, Le Temps incertain, il faut savoir que quand Michel Jury a mis 5 ans à écrire Le Temps incertain parce que c'est quelqu'un qui mettait beaucoup de temps, qui avait une maturation d'écrivain et d'écriture assez longue. Et Le Temps incertain, au départ, ne devait pas être en fait un roman de science-fiction. Michel Jury était admiratif du nouveau roman. Donc des romans, par exemple, il avait lu les romans de Michel Butor, notamment. Et il s'est dit, je veux écrire un roman dans cette veine-là. Et effectivement, on a dans Le Temps incertain, c'est ça qui est tout à fait révolutionnaire dans le récit de cette œuvre. On a des séquences qui se superposent et qui ne suivent pas finalement l'ordre chronologique, un ordre logique. Ça, c'était sa spécificité d'écriture. Mais il m'a dit, ça c'est quelque chose qu'il a dit d'ailleurs dans de nombreuses interviews, ce n'était pas forcément donc un roman de science-fiction au départ. Et puis petit à petit, donc ça l'est devenu. Et quand il a vu que Gérard Klein avait donc ouvert cette collection, donc Ailleurs et Demain, il s'est dit, c'est le moment, j'envoie mon manuscrit. Gérard Klein a mis un an à lui répondre. Et Michel, ça c'est quelque chose qui était terrible pour lui, mais ça je crois que c'est tous les écrivains malheureusement subissent cela. C'est-à-dire qu'on envoie un manuscrit, et on attend. Et à cette époque-là, parfois, il a attendu pour ses premiers manuscrits. Il a dû attendre 2 ans. Mais pendant 2 ans, il faut vivre. Voilà, ça a été une véritable épreuve. Et puis le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, c'est le passage justement au roman de terroir. Parce qu'en fait, Michel Jury a une double carrière. Donc carrière d'écrivain de science-fiction, vous avez bien compris, mais aussi une carrière et une grande carrière donc d'écrivain régionaliste, nous a dit Jean-Pierre Andrevon, ou donc des romans de terroir. Alors, c'est vrai que, bon, il a décidé d'écrire ce type de roman pour des raisons financières, parce que les ventes de science-fiction, donc de ses romans de science-fiction ont baissé, parce que ça ne lui rapportait pas assez, parce qu'il ne faisait pas vivre sa famille. Et donc il s'est dit, comme c'est vrai que dans les années, vous voyez, fin des années 80, le roman régionaliste connaissait un boom extraordinaire, avec par exemple, donc il y avait Pushmore, l'école de Brive, Signol, etc. Donc il s'est dit, je vais essayer. Bon, ça a marché. Mais la seconde raison, c'est que Michel Jury, c'est quand même dans l'âme, c'était aussi un paysan. Et son grand rêve, en fait, depuis 85, à peu près 1985, c'était d'écrire son grand roman paysan. Il voulait absolument écrire un roman sur la Dordogne, puisque à l'époque, évidemment, il vivait donc à Issijac, à côté de Bergerac. Et voilà, il s'est lancé dans cette écriture-là. Donc, il terminait, en fait... ces derniers romans qui ont été publiés au Fleuve Noir, dont il n'était pas d'ailleurs extrêmement satisfait. Et puis, il a commencé à penser, effectivement, à ses premiers romans, à cette trilogie, enfin, on appellera ça cette première trilogie du terroir. Je crois que c'était le vrai goût de la vie. Voilà, le premier, c'était le vrai goût de la vie, où il met en scène un jeune homme donc, qui vit dans les années, c'était années 44, c'est ça, hein, le vrai goût de la vie, voilà, dans les années 44, où il met en scène donc un jeune homme en Dordogne. Et en fait, ce jeune homme, quelque part, c'est lui. Je ne sais pas, Hugo, si tu as le... Tu n'as peut-être pas cet extrait-là, mais il explique très très bien dans une de ses préfaces. Ce personnage s'appelle Vincent Lerouge. Voilà. Il va avoir un succès, je dirais, assez important. Et puis, après, il écrira à peu près un roman par an. Ce qui est quand même... Michel Jury écrivait de gros romans de terroir. Quand vous regardez, il sera publié chez Lafon, parce que Gérard Klein va lui faire rencontrer donc Pushmore, qui était le directeur de collection justement des romans de terroir chez Robert Lafon. Robert Lafon va donc publier également ses romans de terroir. Ces romans vont passer ensuite, il va avoir une proposition chez France Loisirs, et là, effectivement, il va gagner... je dirais, beaucoup d'argent. Certains de son roman ont été tirés à 250 000 exemplaires. Dans la science-fiction, il en était à 10 000. Vous voyez, donc on n'est pas du tout sur le même type de tirage. Là où Michel va gagner finalement beaucoup d'argent, c'est qu'un de ses romans qui s'appelle donc L'année du certif, qui est consacré, ben ça c'est une autre passion de Michel Jury, dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, qui est donc l'école. Alors l'école de la première moitié du XXe siècle, fin XIXe siècle, et jusque dans les années 1930-1940. Et il va se focaliser sur l'histoire du certificat d'études. Il va donc écrire ce roman, et ce roman va intéresser la télévision publique de l'époque, et donc Michel Jury va en faire un scénario, parce que ça aussi c'était un de ses grands rêves. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais ça c'est quelque chose qu'il aurait voulu faire aussi, de l'écriture donc de scénario. Il va écrire ce scénario, et les droits évidemment de la télévision vont lui faire gagner beaucoup d'argent, et ça, enfin beaucoup, bon... pas mal d'argent, on va dire. Et donc, ça, c'est quelque chose, voilà, ça faisait partie de sa carrière. Mais Michel m'a bien dit à la fin, la science-fiction, c'est une famille. Et il a toujours regretté d'avoir quitté ce milieu-là. C'est une famille qui, malheureusement, ne le nourrissait pas. Et quand il était dans ce milieu de ce qu'il appelait la littérature générale, il me disait, on ne fait que parler d'argent dans les festivals, etc. Alors que quand on va dans les festivals de science-fiction... on parle de littérature, on parle avec des lecteurs, et ça rejoint ce que disait Sylvie, tout à l'heure. Et ça c'était une réalité. Il en était parfaitement conscient. Et dans les années 2007, à peu près, il voulait revenir. Voilà, il avait achevé sa carrière. C'était un cycle. Michel travaillait aussi donc par cycle. Il avait achevé son cycle littérature de terroir. Il en a écrit encore quelques-uns. Le dernier, c'est La métairie et le château, qui est sorti en 2013, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, 2012 ou 2013. Mais voilà, il a voulu revenir à la science-fiction. Et le dernier, qui est sorti en 2010, il a également mis, comme le temps est certain, 5 ans pour l'écrire.
Tu voulais réagir, Sylvie? Je t'ai vu noter des choses.
Il n'y en a plus dedans, donc on peut y aller. Ça me rappelait des choses dont Michel me parlait à l'époque. Je me souviens de l'émerveillement qu'il avait eu. Régine Desforges avait publié La bicyclette bleue peu de temps avant les premiers grands succès de Michel. Et un jour, Michel m'a dit, tu te rencontres, je vais rencontrer Régine Desforges. Et il était ébloui, mais heureux comme un gamin qui arrive enfin sur la grande scène. Il avait toujours cet émerveillement. Et nous qui sommes des vieux blasés, moi, quelquefois, j'avais du mal à comprendre à quel point ça le... Il était ébloui, mais il avait une grande frustration que le personnage immense qu'il était pour nous, s'il ne l'était que pour nous, c'est-à-dire au-delà, il était pratiquement un inconnu pour son épicier, son facteur, n'était pas conscient du fait qu'il y avait un auteur aussi important dans le village. Et puisque je tiens le micro, si je peux en profiter pour raconter autre chose aussi, puisqu'on parlait de John Brunner. C'est qu'une des choses que Michel faisait très bien et aimait beaucoup faire, c'était mettre les gens en contact. C'était un grand passeur, Michel. Moi, un jour où j'étais allée le voir, il m'a dit « Écoute, la dernière fois que John Brunner est passé à la maison, il m'a laissé un petit quatrain rigolo, c'était un abécédaire de la science-fiction. Il y avait 26 petits poèmes qui correspondaient chacun à une lettre de l'alphabet, qui correspondaient chacun à un des grands thèmes de la science-fiction. Il y avait les androïdes, les robots. Et il me dit, John m'a dit que ce serait quand même rigolo que ce soit publié en France, mais je connais personne d'assez fou pour essayer d'adapter ça. Pour imaginer ce que c'était d'ailleurs, évidemment, quand on prenait chacun des mots et qu'on le traduisait en français, la plupart du temps, on ne tombait pas sur la même lettre. C'est là que l'exercice devenait très difficile si on voulait essayer de refaire un abécédaire. Et Michel m'avait dit, toi qui as peur de rien, parce que c'est la réputation que j'avais à l'époque, qui ne connaît pas la signification du mot « impossible », tu devrais t'amuser à ça. Et grâce à Michel, j'ai quand même vu débarquer chez moi, dans mon petit appart lyonnais, 2 mois plus tard, John Brunner, qui allait à une convention en Italie et qui m'avait dit « Est-ce que je peux m'arrêter chez toi, qu'on en cause ?» Parce que John Brunner se targuait de parler français très honorablement. Peut-être pas aussi bien que ce qu'il imaginait, mais suffisamment pour qu'on s'amuse beaucoup toute la soirée à travailler sur les quatrains. Et donc, grâce à Michel, John Brunner est passé avec sa femme. Merci Michel aussi pour ça.
Je voudrais qu'on se laisse un petit peu de temps quand même pour pouvoir parler avec vous de Michel Jory. Simplement, je voudrais un petit mot sur Mais le Monde. Donc, Mais le Monde, retour à la science-fiction. Par rapport à l'écrivain de science-fiction qu'il était, peut-être pas 30 ans, mais au moins 20-25 ans avant, est-ce qu'on retrouvait les mêmes thématiques? Est-ce que c'était le même auteur? Est-ce que c'était un retour ou est-ce que c'était différent? Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre, tu avais lu Mais le Monde, toi?
Non, pas du tout. Non. Je vais faire le méchant, mais c'est vrai que... Non, j'ai essayé de le lire sincèrement, parce que j'étais content que Michel Jury revienne à la science-fiction. Mais non, le bouquin m'est tombé des mains au bout de 50-60 pages. Quoi. Je trouvais que c'était naïf, enfantin presque, c'est sa manière de transformer les mots comme ça. Je suis désolé de vous dire ça, mais je suis sincère et franc. Quoi. Non, j'ai pas aimé. Non.
Alors, peut-être Hugo et Natacha.
Alors, Mais le Monde, c'est un roman, je pense que c'est un peu l'héritage de Michel donc pour la science-fiction, et qui fait le lien aussi avec la littérature de terroir. D'abord parce que l'héroïne, c'est une petite fille de 10 ans, et que Michel adorait mettre en scène donc les enfants, et adorait les enfants de toute façon, donc je crois que cette naïveté, elle était un petit peu voulue. Ensuite, il a travaillé, dans Mais le Monde, il a travaillé sur le langage. Alors, même, c'est vrai, ça peut apparaître comme un peu naïf quelque part, mais je crois qu'il s'est beaucoup amusé à écrire ça, parce que ça, c'était quelque chose qui était ce jeu pour le langage. Ce jeu sur le langage, c'est quelque chose de très, très important pour lui. Et enfin, il a joué dans Mais le Monde avec les dimensions. Moins avec le temps, mais surtout avec les dimensions, et notamment un de ses concepts qu'il appelait le grand lien, qui est un concept qu'il avait développé 30 ans auparavant dans un certain nombre donc, de ses romans.
Oui, je ferai à peu près la même... Je connais beaucoup moins son œuvre de terroir, hein, puisque effectivement, d'ailleurs, je regrette beaucoup. Il faut que je la découvre, voilà. Mais effectivement, il me semble que... Ben, on retrouve un petit peu, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la place de l'enfance dans Mais le Monde. Et je trouvais que, moi, justement, ce personnage-là était particulièrement touchant. Et puis, on retrouve aussi sa complexité. Alors, tout à l'heure, il me semble qu'il y a eu une distinction qui a été faite entre les romans de Michel au fleuve noir et puis les romans de Michel qui seraient plus complexes. Je trouve que c'est un bon, à mon sens, c'est un peu artificiel. Il était, je pense que c'est ce que tu as dit, Sylvie, tout à l'heure, il était en apparence simple, mais en réalité très complexe. Et je pense que tous ces romans, toutes ces œuvres, et Mais le monde en fait partie, est à la fois facile d'accès, il y a un jeu sur le langage, et en même temps une complexité, une richesse de thématiques qui me semble parfaitement correspondre à... Donc je ne séparerai pas Mais le monde du reste de son œuvre. Au contraire, pour moi, c'était la... Il revenait, voilà, continuité, il revenait à ce qu'il avait toujours fait.
Alors, je voudrais qu'on termine avec 5-10 minutes d'échange ensemble. Peut-être un petit mot, un souvenir pareil sur Michel Jury par rapport à tout ce qui a été dit. Vous l'avez peut-être rencontré, vous l'avez lu. Par exemple, Jean-Luc Rivera. un petit mot sur Michel. Attends, j'arrive avec le micro.
Un, deux,
oui.
Bon, alors, juste un petit souvenir sur Michel Jury, parce que moi aussi, comme Natacha, j'ai rencontré Michel Jury très tardivement, puisque je l'ai rencontré en 2010, quand je l'ai invité, justement, à Sèvres. Et moi, ce qui m'a frappé, justement, Jean-Pierre Andrevon tout à l'heure évoquait Les yeux géants, qui pour moi aussi est sans doute le plus grand roman de Michel Jury en science-fiction, mais parce que, comme Michel, j'étais passionné par les ovnis. Et moi, ce qui m'avait frappé avec Michel Jury, c'est que jusqu'à la fin, la dernière conversation qu'on a pu avoir ensemble, qui devait être à l'automne 2014, au téléphone, il me parlait d'ovnis, il me demandait quelles étaient les dernières nouvelles, etc. Donc, ça a été quand même l'une des très grandes passions de sa vie, l'ufologie. Vous évoquiez tout à l'heure Jean-Pierre Andrevon, Bertrand Meus, et effectivement, ils ont été très amis. Et vraiment, l'ufologie, c'était l'une des passions parallèles de Michel Jury. Puis, je voudrais quand même rappeler aussi que Michel Jury, certes, il a écrit sous son propre nom de la littérature de science-fiction populaire au Fleuve Noir, mais il l'avait fait sous pseudonyme aussi avant au Rayon Fantastique. Il faut quand même le mentionner. Voilà.
J'ai pas eu le temps d'en parler. Est-ce que quelqu'un a un autre souvenir de lecture, de rencontre?
Oui.
Disons que nous, on a eu la chance aussi de faire sa connaissance à Sèvres en 2010. Et sachant qu'il serait là, on avait préparé pour notre revue Le Météore, on avait préparé une série de questions qu'on lui a proposées. Et il nous a dit, mais aucun problème, je vous répondrai dans la semaine. Il est parti le samedi soir avec nos questions sous le bras. Et le mardi matin, j'avais un email avec les questions auxquelles il avait répondu. Ensuite, on a correspondu un tout petit peu. Et dernière fois que je l'ai eu, comme ça, il me disait, non, maintenant, c'est la fin. J'ai fait plusieurs arrêts cardiaques. Et maintenant, je sais que je suis arrivé au bout de la piste. Voilà.
Y a-t-il un autre petit souvenir de lecture ou un homme, si quelqu'un... Ouais.
J'ai connu Michel un petit peu en 74 à Grenoble, où j'étais avec Versin, qui dirigeait à peu près le congrès européen, où Jean-Pierre Andrevon était. C'est là que je l'ai lui-même rencontré. Je ne l'ai jamais beaucoup connu. J'ai lu, par contre, la trilogie, principalement la trilogie chronolithique. Et je me rappelle un peu mon souvenir de lecture et celui de Versin aussi. Versin avait connu Michel au début des années 60. Il avait publié un texte ou deux de lui dans Ailleurs, dont un avec lequel Michel tentait de convaincre Versin de la possibilité de transmission télépathique de noms propres, ce qui n'a jamais convaincu Versin. Mais au troisième roman, Soleil chaud, Poisson des profondeurs, c'est un souvenir lié au langage. L'impression que j'ai, encore maintenant, est que d'une certaine façon, il lui fallait une dizaine de pages pour en écrire deux ou trois. Pas du tout comme, par exemple, Michael Crichton, parce qu'il est un maître en dilution, mais plutôt le contraire, parce qu'il avait trop à dire. Et puis qu'il lui aurait fallu plutôt 600 pages pour mettre ce qu'il avait à dire là, et que réduire à 200, 250 devait lui poser certains problèmes. Et je me rappelle une dédicace de jury dans un de ses romans, à Versailles, où il était d'accord avec une critique que Versailles lui avait adressée sur un peu l'excès de néologisme. Et il lui disait que par la suite, il y aurait moins de mots de ce qu'il allait faire.
Oui, d'ailleurs, Jérôme, juste un mot à propos de Pierre Versailles. Un des grands regrets de Michel, c'est de ne pas avoir été voir Pierre Versailles, donc en Suisse, à Yverdon. Et il, d'ailleurs, dans le beau recueil d'hommages qui a été publié en 2001 pour Pierre Versailles, il y a un texte de Michel Jury qui est vraiment très, très émouvant, voilà, où il lui écrit de la perte
en rebat. Dans les sous-sols de la maison, d'ailleurs, il y a des archives et il y a juste notamment des copies doubles de nouvelles de Michel Jury envoyées à Versailles et annotées par Versailles. Ouais. C'est moi ce que j'ai vu quand j'ai été visité.
Et il y a le manuscrit
du temps.
Et puisqu'on parlait des néologismes de Michel et de son vocabulaire et de ses noms propres, il y a une thèse qui a été rédigée sur l'invention jurienne en termes de mots. Je ne me rappelle plus du titre non plus, mais c'était une belle thèse. Ah, une maîtrise, oui.
Non, je n'ai pas le titre, mais à côté d'une thèse, moi, la question que je me pose aussi, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment de l'homme et on a beaucoup parlé du parcours et on a un peu parlé aussi beaucoup du passé, des origines. Mais la question que j'aurais aimé qu'on ait le temps de traiter, mais bon, c'est l'héritage. C'est-à-dire, mais l'héritage, pas uniquement l'étude de son œuvre, même si c'est très important, bien entendu, mais l'héritage dans la science-fiction. Y a-t-il aujourd'hui des auteurs français, jeunes auteurs, qui, ayant lu Jury, sont dans une approche jurienne de la science-fiction, tu vois ? Ça, c'est quelque chose qui m'aurait... on discutait même avec des éditeurs et voir comment on pourrait, d'une manière ou d'une autre, identifier ça.
C'est compliqué. Je vais certainement pas répondre à la question, je vais m'en garder, évidemment. Simplement pour dire que ce qui m'a marqué quand on a fait le carnet hommage suite au décès de Michel Jury sur ActuSF, il y en a 3 pages, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, de témoignages de gens qui disaient « je le connaissais assez peu, mais il a été important pour moi ». Et de gens comme Laurent Kessy, qui approche la quarantaine d'années, même s'il a l'air toujours jeune, et de gens un petit peu plus vieux. Et peut-être que son héritage, il est aussi quelque part là-dedans, c'est-à-dire influencer les nouvelles générations. Et on a eu, chez ActuSF, des gens qui se sont passionnés pour Michel Jury, pour ce qu'il faisait, et qui avaient 20 ans ou 25 ans. Donc il y a peut-être une persistance de la vision jurienne.
Gérard Klein disait dans le livre d'or que, donc 1985, disait à la fin de sa préface que on n'en était qu'au début, ce qu'il appelait les études juriennes, c'est-à-dire la perpétuation finalement de ses concepts, de sa façon d'écrire, etc. On était en 85, donc peut-être que maintenant on a un autre héritage à perpétuer, ça c'est sûr.
On va terminer là-dessus. Merci à nos intervenants. Merci à vous. Et puis, vous pouvez les retrouver en dédicace et continuer à discuter. Merci.